Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Édouard Rosset.
Le dimanche 13 juin 2004, nous aurons à élire nos députés européens. 344 millions de citoyens de l'Europe élargie participeront à l'élection de leurs députés. Pour la seule France, ce sont 42 millions de personnes qui se rendront aux urnes pour élire 78 députés sur 730 représentants que comptera donc le nouveau Parlement à Strasbourg. Alors quelques chiffres rapidement, quelques données. Depuis le 1er mai 2004, l'Union compte 25 membres, 20% de consommateurs et 74 millions d'habitants supplémentaires. Une croissance économique nettement supérieure, il est vrai, au prix d'un déficit public très important et des coûts salariaux 5 à 6 fois plus bas. Alors visiblement, plus d'avantages que d'inconvénients, point d'interrogation, osons poser cette question. Avantages certains, nous allons le voir, et pourtant l'Europe est mal connue, pire, peut-être encore trop mal aimée. Je vous propose de parler de l'Europe, de la construction européenne, à l'heure de l'élargissement, avec nos deux invités, pour le moins spécialistes de ces questions, messieurs Michel Albert, président de l'Académie des sciences morales et politiques, et Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, auteur de deux ouvrages, un récent « Que sais-je » intitulé fort justement « L'élargissement de l'Europe » aux presses universitaires de France, et puis un autre ouvrage incontournable sur la question « 15 plus 10, le grand élargissement » aux éditions Albin Michel. Alors Robert Schuman, la Fondation, tout un symbole, plus qu'un symbole d'ailleurs, une histoire. Inutile de rappeler que Robert Schuman fut le père fondateur des communautés européennes avec la déclaration du 9 mai 1950, inspirée par Jean Monnet. Michel Albert, Jean-Dominique Giuliani, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu présent à l'invitation de Canal Académie, la première radio académique francophone et a fortiori européenne. Alors Michel Albert, je me tourne tout d'abord vers vous. Je rappelais que vous présidez pour l'année 2004 donc l'Académie des sciences morales et politiques et que dans ce cadre, eh bien, vous avez retenu comme thème de travail l'Europe. Il faut dire que si sujet il y avait à choisir cette année, c'était bien celui-là. Alors vous y avez consacré de longs moments de préparation et vous êtes penché plus spécialement, nous allons le voir dans le courant de cette émission, sur le cas, sur la personnalité de Robert Schuman. Alors dans un premier temps, Monsieur le Président, pouvez-vous rappeler cette saison académique avec notamment une communication tous les lundis à 15h autour de l'Europe ?
Voilà, oui. L'Académie des sciences morales et politiques se réunit tous les lundis à 15h pour entendre une communication, c'est-à-dire une conférence d'environ une demi-heure, suivie d'observations et de questions de la part des académiciens adressées à l'orateur et suivie de réponses de l'orateur. Cela nous tient de 15h à 17h, 17h15 en général, tous les lundis. Et la fonction du président, qui n'est président que pour une année, la fonction du président consiste à organiser les séances de travail du lundi pendant une année. Telle est donc ma fonction et j'ai décidé de consacrer toutes les séances de l'année 2004 à différents points de vue sur l'Europe. Par conséquent, tous les lundis à 15h, à l'Académie, il est question de l'Europe. Alors, je vais vous donner
séance publique avec des personnalités.
Séance publique avec des personnalités. Nous avons commencé avec Jacques Delors. Cela ne vous étonnera pas. Nous terminerons avec le chancelier Messmer. Cela ne vous étonnera pas non plus. L'année les tout derniers orateurs ont été le 28 avril Raymond Barre. Raymond Barre qui a été le dernier orateur avant le 1er mai, date du grand élargissement, n'est-ce pas ? Puis, lundi suivant, nous avons eu Romano Prodi, qui nous a fait l'honneur de venir chez nous pour nous donner son témoignage sur les priorités de l'Union européenne après le grand élargissement. Puis nous avons eu Félix Roatin, un Américain, ancien ambassadeur en France, qui nous a parlé du problème des relations entre les États-Unis et l'Europe. Et j'aimerais d'ailleurs vous donner quelques témoignages de ce que Roatin nous a dit. Et puis nous avons reçu Bronislav Geremek, qui est le Polonais le plus connu en France après Lech Walesa, je pense.
Ancien ministre des Affaires étrangères.
Ancien ministre des Affaires étrangères et qui est un homme qui a fait une carrière universitaire française particulièrement brillante, puisqu'il a été professeur au Collège de France.
Oui, pour le moins. Alors, les communications du lundi, les communications proposées par les académiciens ou des non-membres, hein, je dirais des personnalités extérieures à l'Académie des sciences morales et politiques, nous pouvons les entendre, ces communications, quotidiennement sur Canal Académie et retrouver les textes écrits sur le site de l'Académie des sciences morales et politiques, www.asmp.fr. Alors, puisque nous sommes dans les présentations, Jean-Dominique Giuliani, quid de cette fondation que vous présidez, la fondation Robert Schuman? Quel est son rôle précisément et sa place dans le débat européen?
C'est une fondation qui a été créée par diverses personnalités, dont le président Michel Albert, le président Alain Poher, le président Monory, M. Raymond Barre, Jean-François Poncet et toute une série de personnalités très engagées dans le combat européen. Après la chute du mur de Berlin, l'objectif premier était d'assister et d'aider nos frères des nouvelles démocraties à rejoindre nos standards démocratiques européens, tout en prêchant une réconciliation et l'idéal européen de Robert Schuman, qui est l'un des pères de l'Europe et dont la plus grande réussite, avec d'autres, fut de réussir la paix après le deuxième conflit mondial. C'était donc une réaction à une situation nouvelle qui nous a conduit à travailler pendant de nombreuses années dans ces pays, notamment d'Europe centrale, pour apprendre, échanger, former, apprendre à les connaître. Et au fur et à mesure que cette tâche avançait, les contacts que nous avions avec les éminentes personnalités de ces pays et les chercheurs, les écrivains, les responsables publics ou privés dans notre pays et au sein de l'Union nous ont conduit peu à peu à développer un deuxième aspect de notre activité qui est un peu celui d'un centre de recherche, un laboratoire d'idées sur l'Union européenne, plus tourné vers son présent et son avenir que vers son passé. Tout cela, bien sûr, en essayant de mettre en valeur l'apport de Robert Schuman, dont la personnalité exceptionnelle a permis cette rupture politique et historique en 1950, rupture avec un passé que nous souhaitions oublier.
Nous allons y revenir, oui.
Et bien sûr, nous avons contribué à la restauration de sa maison, qui est maintenant un centre européen de rencontres, au classement de...
Est-ce que je peux donner l'adresse de la maison?
Ah, mais allez-y.
Pour que les auditeurs puissent aller la visiter. Elle est dans le village de Cichazel, Cichazel, avec un Z et deux LES, tout près de Metz, dans la banlieue de Metz, très facile d'accès, et c'est vraiment un endroit où souffle l'esprit.
Il faut aller visiter cela, et nous irons peut-être un jour, d'ailleurs, sur Canal Académie, nous ferons un reportage sur place. Alors, je le disais tout à l'heure, l'Académie des sciences morales et politiques, notamment à travers Canal Académie, profite des nouvelles technologies, Internet, la Fondation Robert Schuman aussi, on peut se procurer tous vos documents sur votre site, hein, dont je rappelle l'adresse, www.robert-schuman.com. .org, et puis vous publiez également une série de fascicules régulièrement qui nous tiennent informés.
C'est le Schuman qui n'a qu'un N, si je peux me permettre. Oui, je le dis parce qu'il est
très important.
Plus ancien dans l'histoire qu'un autre Schuman à deux N, qui était Maurice Schuman, était très connu. Et effectivement, notre site internet donne accès gratuitement à toutes nos publications. Et nous avons notamment une lettre électronique hebdomadaire qui compte pratiquement 100 000 abonnés. En quatre langues et qui est un moyen, j'allais dire, ludique et agréable de se documenter sur l'Union européenne, sa vie et sa problématique.
Thank you. invité de l'émission Éclairage sur Canal Académie aujourd'hui, Monsieur Michel Albert, président en exercice pour l'année 2004 de l'Académie des sciences morales et politiques, et puis Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman. Alors Monsieur Schuman sera certainement, et sera même assurément, le fil conducteur de cette émission. Avec recul et en fonction de l'état de l'Union aujourd'hui, au lendemain de l'élargissement de 15 à 25, pensez-vous que l'un des papas de l'Europe, celui qui fut l'un des papas de l'Europe, serait fier de son bébé devenu adulte aujourd'hui? Je plante tout de suite le décor de notre conversation. Robert Schuman serait-il d'accord avec sa fille qui a bien grandi et avec les personnes qui ont contribué à son éducation? En clair, quel regard M. Schuman porterait-il sur l'Europe de ce début du XXIe siècle? Qu'en penserait-il, Michel Albert?
Moi, je crois qu'il aurait toute raison d'être fier, d'être d'abord fier. En effet, parce que, comme le disait tout à l'heure Jean-Dominique Giuliani, l'Europe a été, pour la première fois depuis des siècles, terre de paix, et c'était bien là le premier objectif de Schuman. Deuxièmement, parce que cette paix n'était pas la paix du plus fort écrasant le plus faible et le contraignant à se taire, par conséquent, c'était au contraire la paix de la main tendue par le plus fort, en l'occurrence c'était nous Français qui étions du côté des vainqueurs, aux vaincus. Allemagne, c'était la paix du pardon et de la générosité. Et ça, c'est un phénomène unique dans l'histoire du monde. Vous comprenez? Nous devrions être transportés d'allégresse d'avoir vécu cela, d'avoir vécu dans un monde où on s'est écrasé pendant deux siècles par dizaines de millions de morts sur ce continent européen, celui des guerres mondiales. Avoir créé cette zone de paix par la générosité puis par la solidarité, c'est quelque chose que René Raymond, qui est l'un des plus grands historiens, vous savez, qui est un homme particulièrement sobre dans ce qu'il écrit toujours, dit que c'est une réussite inouïe de l'histoire humaine. C'est d'abord ça.
Donc, bilan résolument positif aujourd'hui de cette Europe, Michel Albert.
Indiscutablement, ouais. De ce point de vue, indiscutablement.
Jean-Dominique Giuliani, ce regard du papa sur la fille Europe, un regard de tendresse, certes, mais on imagine aisément peut-être les yeux froncés de temps en temps.
Écoutez, non, je ne crois pas. Je crois que le bilan est positif, sur tous les plans. La méthode Schuman, inspirée par Monet, c'était créons des solidarités concrètes, ce sont les mots exacts que Michel Albert a rappelés lorsqu'il a fait cette merveilleuse communication à la fin de l'année 2003 devant l'Académie sur Robert Schuman. Créons des solidarités concrètes pour faire en sorte, pour parler simple, que lorsque nous avons un différend, nous préférions nous mettre autour de la table plutôt que descendre sur le champ de bataille. Le résultat est totalement acquis. Et ces solidarités concrètes sont évidemment d'abord économiques. Et je crois que sous le contrôle de Michel Albert, sur le plan économique, les 50 ans que nous venons de vivre sont inespérés. Lorsqu'on voit, et je ne l'ai pas vu moi-même, lorsqu'on a vu les ruines du Second Conflit mondial et l'état dans lequel étaient nos pays sur le continent européen. Nous avons profité économiquement en termes de niveau de vie, en termes de technologie, en termes de recherche scientifique, en termes de développement de ces solidarités concrètes. L'objectif des pères fondateurs était que ces solidarités soient tellement fortes qu'un jour ou l'autre, on ait envie de passer au stade ultérieur, au stade suivant, qui est le stade politique. Alors de ce point de vue-là, il y aurait peut-être beaucoup plus à dire, car ça c'est difficile, évidemment. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes un peu à la croisée des chemins politiques, avec ce projet de nouvelle constitution, avec cet élargissement qui pose des problèmes politiques, avec ces élections, nouvelle commission, nouveau parlement.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi et surtout une Europe de la sécurité à faire, une Europe de la fiscalité qui passerait et qui commencerait peut-être d'ailleurs par l'Europe politique, Michel Albert?
Oui, en ce qui concerne l'Europe de la sécurité, Absolument. C'est un impératif. Nous sommes tout à fait irresponsables dans nos politiques de défense. Chaque pays a sa petite politique de défense, sa petite armée, des armées qui sont incapables de se projeter à l'extérieur, qui sont incapables de communiquer les unes avec les autres. Nous sommes à cet égard véritablement de grands coupables. Et pour revenir à l'élargissement, il ne faut pas s'étonner que les nouveaux pays, ceux qui viennent d'entrer, ceux qui ont le plus souffert des suites de la Deuxième Guerre mondiale, aient tendance à valoriser leur appartenance à l'OTAN, à l'Alliance Atlantique. C'est parce que ils sont tout près de la Russie, tout près de zones qui peuvent être dangereuses, et qu'ils savent bien que ce n'est pas l'Union européenne qui représente pour eux le bouclier, la défense. S'ils ont besoin d'être défendus et d'être protégés, c'est sur les États-Unis avant tout, les États-Unis agissant dans le cadre de l'OTAN avec une responsabilité particulière, qu'ils pourront le faire.
On peut citer un exemple récent, l'achat par la Pologne d'avions américains, d'avions de chasse américains,
oui,
d'avions des avions européens.
Oui, mais bien sûr, c'est vrai.
Oui, ils ont passé de fortes commandes européennes tout de suite après pour faire oublier leurs gestes de mauvaise humeur.
Merci Jean-Dominique Giuliani de le préciser.
Mais pour prolonger ce que disait Michel Albert, l'Europe c'est quelque chose de totalement unique et inédit dans le monde. C'est à la fois une union des États et des peuples. Et c'est à peu près contradictoire quand on regarde l'histoire constitutionnelle du monde. Parce qu'une union des États, ça doit respecter les États, les gouvernements, les administrations, les diplomaties. Et l'union des peuples, au contraire, veut aller plus vite dans l'Europe de la défense, de la sécurité, de la protection de l'environnement, des droits sociaux, etc. Donc c'est un perpétuel balancement entre la logique des États qui freine plutôt et la logique des peuples qui pousse plutôt. Mais il faut l'accepter, comme Robert Schuman avait accepté, lui qui était plutôt un homme inspiré, et plutôt un grand diplomate, de commencer par l'économie, qui ne devait pas être forcément son choix spirituel premier. C'était le choix du pragmatisme, et ça marche.
Nous allons y revenir dans un instant, nous allons poursuivre cette émission. Pour l'instant, nous marquons une très très courte pause dans cette émission Éclairage. Je rappelle à nos auditeurs, les auditeurs de Canal Académie qui nous écoutent dans le monde entier grâce à Internet, la radio de l'Académie des sciences morales et politiques reçoit aujourd'hui Monsieur Michel Albert qui préside cette Académie, ainsi que Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman. Nous nous retrouvons dans un très très court instant.
Vous écoutez Canal Académie.
Bonjour, c'est Christa Leuc. Retrouvons-nous tous les jours au Carrefour des Arts sur Canal Académie. Les expositions en Europe, en France et dans le monde. L'art plastique, les concerts. Quel que soit le pays d'où vous nous écoutez, il se passe toujours quelque chose. Invitation à sortir, découvrir, apprécier, humer l'air du temps artistique. Parce que les artistes n'ont pas de frontières, rendez-vous au Carrefour des Arts. Votre agenda culturel sur Canal Académie.
On retrouve Édouard Rosset.
Reprenons le cours de notre émission consacrée à l'élargissement de l'Europe. Élargissement, risque et opportunité, risque ou uniquement opportunité. Nous en discutons pendant trois quarts d'heure encore avec nos deux invités, Michel Albert, président de l'Académie des sciences morales et politiques pour l'année 2004, et M. Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman. Jean-Dominique Giuliani qui publie également chez Albin Michel le livre intitulé 15+10, le grand élargissement. Et puis à ne pas manquer non plus, pour tout comprendre de l'Union européenne, nouvelle formule, nous lirons le Que sais-je, publié aux Presses universitaires de France, un Que sais-je sobrement et fort logiquement intitulé « L'élargissement de l'Europe ». Nous parlions avant la pause du volet économique de la dimension européenne. Restons-y si vous le voulez bien. Il y a quand même une équation, Michel Albert. La nouvelle économie européenne n'apparaît-elle pas finalement contrastée entre la vieille Europe qui connaît une croissance molle, on peut le dire, et les nouveaux entrants qui ont justement une croissance plus soutenue ?
Oui, vous êtes en train de reprendre un vocabulaire qui n'est pas d'origine européenne, qui est dû au ministre de la Défense, Monsieur Rumsfeld, des États-Unis, comme vous savez.
J'ai fait volontairement un tantinet provocateur.
Bon. Oui, on ne peut pas dire qu'il y a la vieille Europe et la nouvelle Europe. Ce que l'on peut dire, c'est que alors que plusieurs pays de l'Europe de l'Est ou de l'Europe centrale, qui viennent d'adhérer depuis le 1er mai, étaient avant la Deuxième Guerre mondiale au moins aussi développés que nos pays d'Europe de l'Ouest. Pensez par exemple à la Tchécoslovaquie, n'est-ce pas, qui était un pays d'avant-garde dans l'ordre du développement. Ils se retrouvent, après 50 ans de communisme, terriblement en retard, terriblement sous-développés par rapport à ce qu'ils étaient, par rapport à ce que nous sommes devenus. Voilà la réalité fondamentale, c'est que d'un côté, vous l'avez dit tout à l'heure, l'échelle des salaires va jusqu'à 1 à 5, et la richesse par tête est de 2,5 fois plus élevée dans les 15 de l'Union européenne que dans les 10 nouveaux venus. Cela étant, je crois qu'il faut se rendre compte que ce n'est pas la première fois que l'Union européenne s'élargit à des pays sous-développés par rapport à son centre. Nous avons, au cours de précédents élargissements, nous avons eu l'arrivée de pays tels que le Portugal, l'Espagne, l'Irlande et la Grèce. 4 pays tout à fait attardé par rapport aux autres pays. On a peine à le croire aujourd'hui. Je vous vois sourire.
Le mot me paraît.
Ils étaient économiquement très attardés, considérablement attardés, et y compris l'Espagne. On a peine aujourd'hui à l'imaginer, mais c'est parce que à partir du moment où ces 4 pays relativement sous-développés par rapport à nous sont entrés dans la communauté européenne, leur développement s'est accéléré d'une manière très rapide, leur taux de croissance, et là je reviens à un aspect de votre question, leur taux de croissance a été beaucoup plus élevé que la moyenne, ce qui fait qu'on a oublié aujourd'hui que l'Irlande était la pauvre cousine lamentablement sous-développée de l'Angleterre, et que l'Espagne était par rapport à nous un pays qui était à mi-chemin entre nous et l'Afrique du Nord, n'est-ce pas ? Voilà l'un des grands succès de la communauté européenne, puis de l'Union européenne, ça a été d'obtenir que grâce à un double effort d'ouverture et de solidarité, les plus pauvres s'enrichissent de manière exemplaire.
Jean-Dominique Giuliani, vous ne pouvez que souscrire à ces propos du président Michel Albert.
Non seulement j'ai souscrit, mais même je peux vous donner quelques chiffres qui les illustrent. Vous parliez de l'Irlande. L'Irlande, quand elle a adhéré en 73, comptait 40% du revenu moyen de l'Union européenne, la communauté à l'époque. Aujourd'hui, c'est 115%. Donc le revenu moyen en Irlande est supérieur à la moyenne européenne à 15. Bien sûr, à 25. Sachant que dans les 10 pays qui nous rejoignent aujourd'hui, il y a des pays comme la Hongrie, la République tchèque, la Slovénie, qui pratiquement affichent 70% de notre revenu moyen. C'est-à-dire que ce sont des pays qui vont nous rejoindre très vite. Et il y a des raisons à ça, non seulement la solidarité européenne, mais nous avons été cette fois-ci moins solidaires que nous ne l'avons été avec l'Espagne ou avec l'Irlande ou avec la Grèce, parce que tous ces élargissements, c'est le 5e, celui que nous venons de vivre le 1er mai, tous ces élargissements se sont faits finalement, l'Europe était en croissance, riche, et j'allais dire n'avait à digérer qu'un ou deux pays, parfois des grands, comme l'Espagne, à la fois. Cette fois-ci, c'est 10 pays, dont 8 d'Europe centrale, qui ne représentent pas une masse de population supérieure à l'élargissement britannique et irlandais. Mais quand même, la Grande-Bretagne était plus développée que ne l'est la Pologne aujourd'hui. Bon. Et ces 10 pays qui nous rejoignent, depuis leur indépendance recouvrée, en 1991, 90, 91, ont eux-mêmes entrepris la réforme de leur système économique et eux-mêmes remis leur société sur les rails, d'une manière absolument époustouflante. Moi qui passe mon temps à y aller, je peux vous dire que jamais on ne pourrait faire dans notre pays, par exemple, 20% des réformes qui sont faites en Pologne ou qui ont déjà été faites en Hongrie sur les retraites, sur la sécurité sociale.
Parce il y a une volonté de leur part d'aller de l'avant.
Non seulement il y a une volonté, mais il y a eu une volonté qui a produit ses effets et qui, bien sûr, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais comment vous dire ces pays ont accepté le sacrifice, les sacrifices quasi quotidiens qu'il fallait faire pour rattraper leur retard. Et quand je dis « ils ont accepté », ce sont les hommes politiques, les citoyens, les entreprises, les fonctionnaires, tout le monde. Les hommes politiques ont été systématiquement renvoyés. Il y a eu alternance systématique à deux exceptions près pendant les 15 ans que nous venons de vivre. C'est-à-dire que c'était tellement difficile de faire passer la pilule que, généralement, on se faisait renvoyer à ses chères études à la première élection venue. Les populations l'ont payé très cher d'un chômage élevé. Il est encore élevé en Pologne, avec 20%. Mais, et avec, vous savez, on discute dans nos pays de savoir si on va avoir un 7 points de croissance ou 2 l'année prochaine ou cette année. J'étais en Lettonie les 3 premières années de leur indépendance. La croissance, c'était moins 50% chaque année. Mmh. C'est-à-dire que tout s'est effondré, l'appareil industriel, l'appareil commercial, et que tout le monde a pris son bâton avec un courage extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, ces pays ont retrouvé, depuis les pratiquement 99-2000, le chemin de la croissance. Aujourd'hui, la croissance dans les 10 pays qui nous ont rejoints le 1er mai est en moyenne supérieure du double à ce que nous connaissons dans les pays des 15 de l'Union européenne. C'est-à-dire que ce sont des économies en voie qui ont déjà recouvré leur bonne forme et en voie de croissance.
Alors pour revenir à la question initiale, risques ou opportunités, je serais tenté de retenir à vous entendre, messieurs, le deuxième mot, opportunité. Pour qui? Pour eux? Opportunité pour nous également? Opportunité pour l'ensemble de l'Europe? Pour l'ensemble des citoyens européens?
Michel Albert. Opportunité pour eux, évidemment. C'est la raison pour
on vient de le voir,
oui. C'est la raison pour laquelle ils ont été tellement demandeurs. Et d'ailleurs, nous les avons fait poireauter pendant 15 ans. Jean-Dominique Giuliani le disait tout à l'heure. Ils imaginaient qu'au lendemain de la chute du mur de Berlin, tout naturellement, leurs frères de l'Ouest allaient les accueillir les bras ouverts, comme d'ailleurs Robert Schuman l'avait souhaité en son temps. Non. 15 ans. Nous les avons fait attendre pendant 15 ans pour qu'ils puissent s'adapter, adhérer, intégrer le droit communautaire chez eux et se préparer. Mais néanmoins, nous avons été particulièrement longs. Il faut bien dire ce premier point.
Et les premiers pays de l'Europe, qu'ont-ils attiré de l'arrivée de ces nouveaux pays? Concrètement,
ce qu'ils ont,
Michel Albert,
qu'ils ont, oui, parce que
au plan économique,
vous,
notamment,
vous avez dit tout à l'heure avantages, inconvénients, n'est-ce pas? Moi, je trouve que en amont de cela, ce que nous avons à intégrer, c'est le fait que nous avons fait un devoir de fraternité qui s'imposait, que ils ont été pendant 50 ans dans les geôles du rideau de fer, le rideau de fer est tombé, nous les intégrons à leur demande, avec l'enthousiasme qui a précédé leur demande. C'est d'abord ça que nous faisons. Alors, pour nous, par ailleurs, bien entendu, ça constitue des sources de main-d'œuvre, et ça constitue, à mesure qu'ils se développeront, et ils se développent rapidement, naturellement, des marchés de proximité et des débouchés pour nous.
Pardonnez-moi d'être encore une fois provocateur, mais c'est volontaire. Certains vous opposeront l'image et la réalité du dumping social, non? Oui. Dans cette Europe élargie. Jean-Dominique Giuliani.
Vous ne pouvez pas dire dumping, c'est simplement qu'ils sont plus pauvres. Vous ne pouvez pas dire dumping. Dumping, ça veut dire qu'on abaisse artificiellement des prix ou des coûts. C'est pas du tout ça.
Sur la question, alors là, je partage totalement ce point de vue. Premièrement, qu'est-ce qu'on gagne? Déjà, en 2003, l'excédent commercial de la France à l'égard des 10 pays adhérents, nouveaux adhérents au 1er mai, est de 2 milliards d'euros, avant même qu'ils n'adhèrent. Donc vous imaginez que ces pays qui ont besoin de tout, de biens d'équipement, on imagine que la mise à niveau des réseaux, c'est-à-dire de transport, de télécommunication, d'adduction d'eau, etc., dans les pays d'Europe centrale, c'est 500 milliards d'euros d'investissements. Ce sont des investissements que nous allons faire, parce qu'ils n'ont pas les moyens de les faire. Donc nos emplois, c'est là qu'on va les trouver. Notre croissance, c'est là qu'on va les trouver. Alors je vois bien qu'il y a un débat qui se développe sur les délocalisations. C'est vrai que les salaires sont moins chers. C'est vrai aussi qu'ils augmentent trois fois plus vite que chez nous et qu'il y a une vraie demande sociale. Croyez-moi, les syndicats d'IG Metall sont déjà en Slovaquie en train d'expliquer à leurs collègues qui fabriquent des voitures comment il faut s'organiser pour avoir un droit social à peu près correct. Et pourquoi Peugeot, pourquoi Hyundai vont s'installer en Slovaquie? C'est pas à cause des salaires. Même s'ils profitent dans un premier temps, pour un an ou deux, de cet avantage compétitif, c'est parce que les nouveaux clients de leurs véhicules sont là. En 2003, on a immatriculé dans les 8 pays d'Europe centrale 1,3 million de véhicules neufs. On imagine que dans les 3 ans qui viennent, on va vendre 5 millions de véhicules. Il n'y a pas aujourd'hui dans le monde de marché de consommation automobile qui croît si vite. Donc c'est pour ça qu'on va s'installer là. De temps en temps, il peut y avoir des problèmes de PME qui préfèrent aller travailler en Pologne quelque temps. Mais si
le rien n'est jamais parfait de toute façon.
Bien sûr, ça existe. Mais si le calcul, c'est pour bénéficier d'un avantage compétitif, permettez-moi de vous dire que c'est une erreur de calcul. Et je ne crois pas que les chefs d'entreprise la fassent. En revanche, pour conquérir de nouveaux clients, imposer peut-être des normes de consommation qui correspondent à ce fameux acquis communautaire, c'est-à-dire les règles juridiques que ces pays appliquent dès le 1er mai, aujourd'hui, c'est 80 000 pages de journaux officiels des communautés européennes qui ont été votées sous forme de loi par tous les nouveaux pays. Ça veut dire qu'un entrepreneur français, en Pologne ou en Estonie, il a les mêmes règles juridiques, les mêmes garanties. Il peut donc commencer à investir. Et d'ailleurs, nous avons investi dans ces pays, avant même qu'ils n'adhèrent, plus de 20 milliards d'euros. C'est le stock d'investissement français qui est d'ailleurs très important en Pologne, puisque nous dépassons les 6 milliards d'euros. Donc nos emplois sont là, notre croissance est là, et d'ores et déjà, selon la variation de l'euro, l'Europe à 25, quand l'euro est à 1,25 $, l'Europe à 25, c'est déjà le PIB des États-Unis.
Eh bien voilà, le chiffre est parlant, en tout cas l'argument est là. Nous marquons une nouvelle pause dans cette émission, messieurs. Et puis nous allons aborder une autre question très très importante, très intéressante, celle de l'intérêt des citoyens européens pour la question européenne. Tout de suite après la pause, je rappelle les deux invités reçus aujourd'hui dans l'émission Éclairage sur Canal Académie, la première radio académique francophone, la radio de l'Académie des sciences morales et politiques, dont nous recevons donc le président, monsieur Michel Albert, et le président de la Fondation Robert Schuman, Jean-Dominique Giuliani. À tout de suite.
Vous écoutez Canal Académie.
Éclairage reçoit aujourd'hui deux invités, monsieur Michel Albert, président de l'Académie des sciences morales et politiques, et Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman. Nous parlons évidemment de l'Europe. Peut-être pas forcément un symbole, mais une anecdote que vous souhaiteriez nous raconter, monsieur Michel Albert, concernant l'un des derniers intervenants, d'ailleurs, l'un des derniers communicants à l'Académie des sciences morales et politiques. C'était récemment, en salle des séances, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Pologne, monsieur Geremek.
Geremek, oui, oui. À la fin de sa communication, à la fin de nos exposés, il nous a dit le bonheur qu'il avait d'être avec nous. Et ce bonheur, il l'a illustré de la manière suivante. Il a dit « Pendant toute ma jeunesse, j'ai rêvé d'avoir un passeport pour pouvoir me comporter en homme libre et visiter les autres pays du monde. Et je n'avais pas de passeport. Mmh. » Et puis, les choses se sont progressivement améliorées. Et puis, j'ai eu un passeport. J'étais très heureux d'avoir un passeport. Mais ce n'était que la deuxième phase. La troisième phase, nous a-t-il dit, je l'ai vécu hier soir. Hier soir, en arrivant à l'aéroport Charles de Gaulle, pour la première fois, le policier ne m'a pas demandé mon passeport. Par conséquent, je n'ai plus besoin de passeport pour venir de Pologne en France. Eh bien, ça, je vous assure, c'était beau à pleurer.
C'est l'une des leçons. D'ailleurs, nous écouterons M. Guérimac cette semaine évoquer cette partie de l'histoire. Alors, Jean-Dominique Giuliani, un sondage vient parler de l'image qu'ont les citoyens français, au moins de l'Europe. C'est ça, c'est une enquête qui a été
récemment publiée
dans un grand quotidien du soir.
Absolument.
Et donc qui montre que finalement l'Europe ne bénéficie pas d'une si mauvaise image que cela auprès des citoyens.
Non, je crois que les Français sont plus européens que leurs responsables politiques de tous bords. Ça se comprend, Michel Barnier, l'actuel ministre français des Affaires étrangères, avec cette formule, bien sûr, si vous demandez à la dinde de faire le menu de Noël, elle ne sera pas enthousiaste. Et il s'agit bien de ça. Il s'agit de constater nous ne pouvons plus faire tout seul un certain nombre de choses pour répondre aux défis du monde contemporain. Michel Albert le disait en matière de sécurité, c'est évident. Et que donc nous décidons librement de le faire à plusieurs, et donc pour cela de le confier à une instance, oui, supranationale, qui le fait pour nous sous notre contrôle, et sous le double contrôle des États et des peuples. Et cette logique, elle est aux deux tiers acceptée par les Français, qui sont même pressés qu'on aille un peu plus loin. Mais tout le débat public en France, et pas seulement en France d'ailleurs, évidemment, souffre un peu de ce hiatus entre ceux qui sont en charge des vieux intérêts nationaux, j'allais dire anciennes formules, et des gens qui ne voient pas avancer aussi vite qu'ils le souhaiteraient des politiques communes. Exemple, le naufrage du pétrolier Le Prestige sur les côtes françaises a scandalisé tout le monde. Comment, pourquoi l'Europe n'est pas plus efficace? En l'occurrence, l'Europe n'était pas plus efficace parce que la Commission avait fait son travail, le Parlement avait fait son travail, mais les États bloqués parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le siège de l'Agence de sécurité maritime. Donc on avait pris 2 ans de retard et on a eu une pollution de plus. Alors, vous voyez, l'Europe fonctionne comme ça, les Français le savent, et dans cette enquête très approfondie que nous avons fait réaliser par un grand institut français,
que l'on peut citer,
la Sofres, nous nous apercevons que 72% des Français considèrent que la politique européenne de la France, l'engagement européen de la France est positif. Quand on leur pose la question, quelles sont les compétences publiques qui sont mieux exercées au niveau européen ou au niveau national, toutes, défense, sécurité, lutte contre l'immigration, toutes les réponses disent c'est le niveau européen qui est le plus pertinent et le plus efficace, allez-y. Et en revanche, on constate une frilosité, peut-être justifiée d'ailleurs, mais enfin qu'on connaît bien, pour tout ce qui est protection sociale, la sécurité sociale, protéger notre système éducatif. Là, les Français sont un peu arc-boutés sur leur dimension nationale, car ils ont parfaitement compris que nous vivons merveilleusement bien et que si on se compare, on va être obligé peut-être de se couper un petit doigt. Et d'ailleurs, dans cette enquête, on a fait poser la question « Où vit-on le mieux dans le monde ?» Et à plus de 80%, c'est en Europe. Où respecte-t-on le mieux les droits de l'homme? C'est à 80% en Europe. Où la culture a-t-elle une dimension acceptée dans la société, à côté des contraintes économiques? Et évidemment, à chaque fois, à chaque question, là, l'Europe arrive en tête. On est heureux de vivre en Europe, on est heureux d'y vivre confortablement pour ce qui nous concerne, il faut être objectif, et on a un peu peur de perdre certains de nos avantages. Mais le monde d'aujourd'hui, c'est un monde de grands ensembles, c'est un monde compétitif. Je crois qu'on a là la base d'une politique européenne plus offensive qui nous permettrait notamment d'aller plus loin et plus vite.
Si on résume cette enquête, c'est plus d'Europe finalement.
Oui.
Besoin de plus d'Europe. Michel Albert, le président de l'Académie des sciences morales et politiques, qui consacre son année de présidence à l'Europe, ne peut que se féliciter.
Attendez un instant. Plus d'Europe, certes. Je suis tout à fait partisans, par exemple, d'une défense européenne et d'une politique étrangère européenne, ce qui suppose un saut institutionnel de première grandeur. Mais attention, pensons à ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, à savoir qu'il faut autant que possible que les compétences publiques soient à la base, soient près du peuple, et que les nations continuent à garder une pleine responsabilité dans des domaines tels que l'éducation. Nous n'allons pas faire une éducation, un système d'éducation au plan européen. Les Allemands n'ont même pas un système d'éducation au plan national. Ce sont les Länder qui sont compétents en matière d'éducation. Deuxièmement, il est beaucoup question aujourd'hui de réformer la protection sociale, qu'il s'agisse des retraites, qu'il s'agisse de l'indemnisation du chômage ou a fortiori de l'assurance maladie. Eh bien, dans tous ces domaines, il est normal que les compétences aujourd'hui nationales demeurent nationales. Il n'y a pas de raison pour que notre régime de retraite devienne européen. D'ailleurs, ce ne serait pas supporté. Les risques de notre système de protection sociale sont tels qu'il faut que chaque pays prenne bien ses responsabilités dans ce domaine. C'est là qu'il y a le maximum de légitimité et c'est là qu'il y a le maximum, par conséquent, de fondement politique.
Alors, je fais référence directement à un témoignage, celui d'Alain Lamassoure, ancien ministre des Affaires européennes, qui s'exprimait, M. Giuliani, dans l'une de vos... vos plaquettes que vous publiez par la fondation Robert Schuman. Je cite les principes fondateurs selon Alain Lamassoure. 7 piliers, dit-il, pour une nouvelle sagesse. 1. Ne pas s'embarrasser de la souveraineté. 2. Le principe démocratique. 3. Le principe d'amour. 4. Le principe du bonheur. 5. Le principe de subsidiarité. 6. Le principe de constance. Et 7. L'espace raisonnable. Alain Lamassoure dit bien, premier point, ne pas s'embarrasser de la souveraineté. Michel Albert.
Ah, mais bien entendu. Jean-Dominique Giuliani l'a parfaitement expliqué tout à l'heure. Il y a des domaines qui ne peuvent plus être bien traités au plan national. Je ne vous donne qu'un exemple, celui de la politique commerciale. Quelle va être la politique de la France dans les grandes instances internationales et notamment à l'Organisation mondiale du commerce? Si c'est la voix de la France qui exprime nos intérêts, cette voix n'aura aucun écho. Nous n'avons presque pas de capacité d'écoute à ce niveau-là. Mais il se trouve, heureusement, que depuis le traité de Rome, depuis 1957, il a été décidé que la politique commerciale serait une politique commune à l'Europe. Cette politique commune, elle est aujourd'hui menée par un commissaire français qui est Pascal Lamy et dont le monde entier sait bien qu'il a une audience très large. Non seulement parce que c'est un homme de grand talent, mais parce que c'est un homme qui parle au nom aujourd'hui de 450 millions d'Européens.
C'est vrai qu'il a une aura assez importante. Oui. Jean-Dominique Giuliani, sur ce
point. Oui, il fait reculer les Américains. Il vient de faire à deux reprises reculer et condamner les Américains à l'Organisation mondiale du commerce. Donc ce que dit Michel Albert est totalement justifié. Vous savez, le marché, le grand marché unique à 25, c'est 453 millions de consommateurs. On dit souvent que ce qui a fait la richesse des États-Unis, c'est son marché intérieur, avant de pouvoir conquérir le monde avec ses grandes entreprises. C'est ce qui va se passer avec nous aussi. C'est-à-dire que si nous sommes assez intelligents pour développer notamment les nouveaux adhérents à l'Union européenne, nous aurons une force qui comptera et qui sera la première force économique et commerciale du monde, avec le premier marché par le niveau de vie des consommateurs et leurs besoins à satisfaire. Et à partir de là, nous pouvons commencer à espérer avoir une construction politique plus facile, parce qu'il est toujours difficile de marier les États quand l'État-nation a autant d'enracinement dans nos sociétés nationales.
Alors l'Europe à 5, l'Europe à 12, l'Europe à 15, l'Europe à 25 aujourd'hui, l'Europe à combien demain et quand, Michel Albert ? Quelle est votre vision de l'Europe future ?
Oui, alors premièrement, il faut que l'Europe future soit une Europe. Il n'est pas possible n'importe quel pays à travers le monde qui a envie d'entrer en Europe puisse le faire. Je pense en particulier aux pays musulmans, et je pense qu'il y a un problème tout à fait sérieux en ce qui concerne la Turquie. Il me semble que lorsque nous aurons après nous être élargis à 25, lorsque nous aurons intégré la Bulgarie et la Roumanie d'une part, et d'autre part les pays des Balkans, dont il faut espérer qu'ils arriveront rapidement à être en état, à faire l'effort sur eux-mêmes et l'effort d'entente entre eux qui est nécessaire, je crois qu'il sera bon de souffler un peu en ce qui concerne l'extension. Ce qui n'empêche pas que nous devons être préoccupés du développement de nos voisins, et qu'en particulier, c'est le développement des pays du sud de la Méditerranée qui sont en pleine explosion démographique, est un problème majeur de l'Europe unie pour la prochaine génération.
Jean-Dominique Giuliani.
Oh oui, je partage ce point de vue. La géographie explique souvent l'histoire, la culture et les religions. Et je crois qu'en Europe, c'est une réalité. Et que la limite sud de l'Europe, c'est le Bosphore. Mais pas les deux rives, une seule, pour être très précis. Et qu'à l'est aussi, il y a une limite. L'Europe à 25 coïncide géographiquement exactement avec les limites à l'est de l'Argotique. C'est pas un hasard. C'est bien qu'il y a une identité européenne qui a été, moi je le dis parce que je le pense, forgée par toute une série de phénomènes, mais par le christianisme. Doit être revendiqué pour le passé comme tel. Pour l'avenir, je conçois qu'on soit plus prudent, compte tenu du caractère un peu explosif du choc des civilisations. Mais en tout cas, pour le passé, ça ne fait aucun doute. Et ne pas tenir compte de nos racines et de ce qu'on est, et vouloir, comme malheureusement la mécanique en est enclenchée aujourd'hui sur un plan purement diplomatique, et administratif, s'élargir à tout propos risquerait de diluer le projet européen, et qui n'est pas seulement un projet économique, qui est aussi un projet politique, mais qui en tout état de cause est aussi un projet de société, un projet inspiré par des pères fondateurs qui étaient eux-mêmes spirituellement inspirés, et qu'il faut garder cette dimension à l'Europe.
Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman. Je rappelle deux titres d'ouvrages. Le premier, vous le publiez chez Albin Michel, 15 plus 10, le grand élargissement. Et puis le Que sais-je, qu'il faut absolument se procurer, Que sais-je, intitulé L'élargissement de l'Europe, c'est aux presses universitaires de France. Jean-Dominique Giuliani, vous restez avec nous, bien sûr, accompagné de Michel Albert, président de l'Académie des sciences morales et politiques. Nous parlons aujourd'hui dans l'émission Éclairage de l'élargissement de l'Europe. Et après une dernière pause, il nous restera un petit peu plus de 10 minutes pour parler de ce grand Robert Schuman. A tout de suite.
Vous écoutez Canal Académie.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de l'histoire. Leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles. Historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Radio Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent. Retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Radio-Canal Académie.
Dernière partie de notre émission Éclairage consacrée cette semaine à l'élargissement de l'Europe au lendemain de l'arrivée de 10 nouveaux pays membres. Nous en parlons aujourd'hui avec M. Michel Albert, président de l'Académie des sciences morales et politiques, et le président de la Fondation Robert Schuman, M. Jean-Dominique Giuliani. Alors, Robert Schuman, justement, qui était-il ? Pourquoi Michel Albert, vous qui vous êtes penché particulièrement sur ce grand personnage, cette grande personnalité européenne et mondiale, bien sûr, pour une communication que vous avez présentée à l'Académie des sciences morales. Pourquoi et comment a-t-il embrassé cette ambition européenne, devrais-je plutôt dire, cette ambition pour l'Europe ?
Oui, alors, deux choses. Premièrement, Schuman est né au Luxembourg en 1886, et il est né au Luxembourg parce que son père, qui était Mosellan, était devenu allemand en 1871, lors de l'annexion de l'Alsace-Moselle. Il était devenu allemand, il a quitté l'Allemagne mosellane pour s'installer au Luxembourg. Son fils est donc d'origine française, devenu allemand par son père en raison de la défaite française de 1871, il est né au Luxembourg. Vous voyez qu'il était déjà, origine, et il était en quelque sorte trinational, ouais. Entre guillemets. Et il n'est devenu français qu'en 1919, bien entendu, après la récupération par la France de l'Alsace et de la Moselle.
Mais qu'est-ce qui concrètement a présidé... Vous souhaitiez aborder un deuxième point.
Oui, alors, deuxième point... Robert Schuman est un homme qui avait une profonde culture, une profonde réflexion philosophique sur le progrès historique. Robert Schuman considérait que il y a une obligation des hommes de faire en sorte qu'ils participent au progrès des institutions, au progrès du monde, au royaume de Dieu, pour dire la vérité, n'est-ce pas ? C'était un homme avant tout chrétien qui est devenu homme politique à reculons, poussé d'ailleurs par un évêque de Metz dans une large mesure, qui n'avait aucun goût pour le pouvoir, pour les prestiges, qui était un homme, un apôtre, dont la passion était de contribuer au progrès autour de lui. Alors, il s'est trouvé être ministre des Affaires étrangères, toujours à reculons, n'est-ce pas ? Il a, différentes reprises, dit qu'il était bien incapable de faire un bon ministre. Et il est devenu ministre des Affaires étrangères en 1948. Et c'est en 1950 au moment où les Alliés étaient persuadés qu'il allait falloir rétablir l'Allemagne dans tous ses droits, que lui, Robert Schuman, a fait une proposition qui dépassait la proposition anglo-saxonne tendante à rétablir l'Allemagne en tant que nouvelle puissance. Lui a proposé qu'il y ait non pas rivalité des puissances, mais union à travers la communauté européenne du charbon et de l'acier. 1959 mai.
Mmh. Finalement, Jean-Dominique Julien, que reste-t-il aujourd'hui de Robert Schuman, de l'homme, de sa pensée, de sa philosophie ?
L'acte qui reste, c'est l'acte fondateur de l'Union européenne.
Oui, on peut dire, si vous permettez, je vous interromps, que pour faire court, je crois que les deux plus grandes dates de l'histoire de la construction européenne, c'est premièrement déclaration Schuman le 9 mai 1950, deuxièmement le grand élargissement le 1er mai 2004. C'est à ce niveau que se situe l'événement que nous venons de vivre.
Mois de mai très important.
Oui. S'il n'y a pas un moment ou un autre une rupture dans l'histoire, elle peut s'expliquer par les circonstances, par des événements. Elle est la plupart du temps le sujet des hommes. Et je crois qu'il n'était pas tout seul. Michel Albert explique fort justement que c'est un homme des frontières qui portait cette souffrance des hommes frontaliers dans sa propre chair. Il avait comme partenaire Alcide de Gasperi, qui était dans le même cas, qui était né dans le Trentin au Tadige et qui a siégé au Parlement autrichien quand sa région était occupée par les Allemands. Et quand il est redevenu italien et Premier ministre pour reconstruire son pays, il était devant une table rase et un champ de ruines. Et quant à Konrad Adenauer, un chrétien convaincu qui avait à relever l'Allemagne avec le poids moral en plus de ce qu'avait fait l'Allemagne, ça faisait déjà au moins trois complices de bonne volonté qui cherchaient des formules. Et dans l'ombre et à côté d'eux s'activaient un grand nombre de bonnes volontés, Paul-Henri Spaak chez les Belges, Jean Monnet, qui était un peu le mécano, l'artisan de tout ça, un prédécesseur, Michel Albert, dans certaines fonctions éminentes, notamment le commissariat au plan, etc., et qui a su nouer tous les fils, notamment dans les milieux des affaires, notamment avec les Américains, etc., pour que tout ceci soit possible. Mais ce qui reste de Robert Schuman, partout dans le monde aujourd'hui, plus encore qu'en France, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, avec notre fondation, nous essayons de faire connaître cet exemple merveilleux, partout dans le monde, on sait qui c'est. Je suis allé présenter une traduction albanaise du seul livre de Robert Schuman pour l'Europe, à Tirana. Il est traduit dans toutes les langues du continent européen, y compris la variante biélorusse, qui est en fait du russe, en estonien, en slovène, en serbo-croate. Il a même fallu faire deux éditions, une en serbe et une en croate. Donc, si vous voulez, c'est une immense popularité parce que c'est l'homme de la paix. C'est l'homme qui a su amener la paix, même s'il n'est pas tout seul, amener la paix sur le continent champion des guerres.
L'aspect catholique est très important dans la dimension du personnage et dans l'avenir de l'Europe d'ailleurs.
Dans l'avenir de l'Europe,
à son époque,
je n'en sais rien.
Mais
en tout
volonté,
cas, pour lui, c'était absolument central. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était un acte tendant à établir un petit peu de royaume de Dieu dans notre vie commune. C'était ça. C'est un saint, n'est-ce pas? Vous comprenez?
Il le sera peut-être bientôt officiellement, d'ailleurs. Alors, justement, il y a une cause en béatification qui est introduite à Rome.
Oui, et qui va être... Elle n'a pas été encore introduite à Rome, elle va l'être très prochainement.
Quelle époque? On ne sait pas encore.
C'est officiel. 22 mai, je crois.
C'est
quelques jours sont tout à fait exacts.
Très bien. Et il faut quand même, je crois, un miracle, avoir reconnu...
Écoutez, l'Europe, c'est déjà le miracle.
Merci infiniment. Michel Albert, président de l'Académie des sciences morales et politiques. Et puis Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, étaient nos deux invités aujourd'hui sur Canal Académie. Je rappelle le site de l'Académie des sciences morales et politiques, www.asmp.fr, et puis le site de la Fondation Robert Schuman, www.robert-schuman, avec un seul n.org. Messieurs, merci et à très bientôt.
Thank you.